Je rappelle comment étaient distribués les trois volets de ces interventions. Le premier jour, puisqu'il s'agissait de savoir s'il n'y avait d'absolu que le relatif, il s'agissait de savoir comment nous vivions dans un monde relativiste que j'ai appelé dans mon bouquin sur l'évangélisation un monde postmoderne. J'ai pas voulu vous saouler avec ça parce qu'il aurait fallu que je définisse postmoderne. Ça avait été d'ailleurs l'Emmanuel qui m'avait invité ici il y a quelques années, qui m'avait demandé ça pour vous. Parlez-nous, Père, de la situation des chrétiens dans un monde postmoderne. J'ai dit, mais déjà le mot, ils vont pas comprendre. Bon, alors ils m'ont dit, si, il faut parler de ça. Alors j'avais parlé de ça, puis finalement, ça avait été assez sympathique. Là, j'ai pas voulu insister sur ce point. Bon, enfin, ça revient à peu près au même. Donc le monde relativiste, j'ai essayé d'en dessiner quelques-unes des caractéristiques, c'est-à-dire c'est un monde qui renonce à la vérité objective, mais pas à toute la vérité. Il la fonde désormais sur une subjectivité partagée par le plus grand nombre possible, obtenue par vote, imposée par des lois, sachant que du coup la vérité est flottante et peut se déplacer selon les époques. Bon, donc face à une situation comme celle-là, dont on voit tous les linéaments dans la société, la culture, tout ça, la situation du chrétien n'est pas commode pour deux raisons, et en plus deux raisons qui vont pas bien ensemble, un peu contradictoires. La première, c'est ben, ce monde-là, d'une certaine manière, c'est pas pour lui, vu que le chrétien il s'attache à la vérité, bon. Mais par un autre côté, il est jugé parti parce que le relativisme, après tout, lui permet bien des commodités. Et donc, il est relativiste aussi à sa façon. Ou bien qu'il participe au relativisme général, celui de tout le monde, ou bien que dans le cadre même de sa foi, il se demande s'il ne faut pas opérer un tri, ce que j'ai appelé plusieurs fois « j'en prends et j'en laisse bon. ». Ce qui, évidemment, ne l'aide pas à être chrétien, ce qui ne l'aide pas non plus à évangéliser, en tout cas ce qui rend sa tâche plus compliquée avec un certain nombre de paramètres. Cela dit, vous savez, tout est possible. Et encore une fois, je suis frappé, je vous en ai donné quelques-uns des exemples, de jeunes qui osent, dans un groupe pourtant sinon hostile, du moins peu favorable, à l'énoncé d'une vérité chrétienne. Quand on ose, je ne dis pas que ça convainc tout le monde, mais ça marque. Ça marque, parce que c'est une parole profonde, que voulez-vous. Vous citez, c'est inséré dans votre discours, vous citez une phrase de l'Évangile alors que vous passez à la télé, mais que voulez-vous, c'est une phrase du Christ. Elle va s'adresser à 6 millions de personnes, peut-être que le présentateur ne saura même pas que c'est une phrase de l'Évangile tout à fait. Que voulez-vous, c'est la parole de Dieu qui traverse l'écran. Et ça peut changer la vie de centaines et de milliers de gens, vous ne le saurez pas, ça c'est très bien. Donc il ne faut pas hésiter parce que cette parole-là perce. Elle est perforante, elle est plus forte que nous. Vous voyez, je crois avoir insisté, je le fais aujourd'hui en rappel, lorsque vous vous faites les témoins de la vérité chrétienne, parce que vous êtes, par votre attitude, en état d'acceptation, de refus, ce qu'on exigerait de vous, parce que vous osez vous exprimer et que vous osez parler, vous osez résister, parce que non seulement vous avez un peu d'instruction, mais un peu de caractère, et je crois qu'il faut l'un et l'autre, mais que voulez-vous, vous vous faites les témoins d'une réalité, d'un ordre de vérité, d'un domaine de vérité qui est plus fort que vous, qui est plus puissant que vous, qui n'est pas vous, qui n'est pas la somme de vos réflexions personnelles. Vous vous faites le témoin d'une vérité, celle du Christ, que vos interlocuteurs les plus avertis sauront reconnaître en pointillé, et face à laquelle ils seront obligés de prendre position, explicitement ou implicitement. Il peut d'ailleurs y avoir des jeux du chat et à la souris, et de souris comme ça. Ils ont parfaitement compris d'où vous veniez, du coup ils vont avoir du mal à vous attaquer de front, vont vous attaquer de biais, et en même temps ils savent quel est le rhinocéros qu'ils ont en face d'eux. Ça c'est très bien. Rien de tel qu'une évaluation mutuelle des adversaires. Vous savez, des vrais adversaires se respectent normalement. Ils se saluent avant de se combattre. Donc il ne faut pas avoir peur, en plus vous ne risquez rien. D'abord vous pouvez être revêtu d'une autorité, vous témoignez au nom du Christ, même si c'est tout simple, car la parole est plus forte que vous. Et puis supposez que ça ne soit pas accepté, donc ça se perde dans des objections, dans le brouhaha, dans un éclat de rire, dans je ne sais pas quoi. Et alors, on ne va pas vous tuer. Pas ici, pas encore. Vous n'allez pas en mourir, vous allez vous heurter au front du refus. Bon, ben, c'est pas vous qu'on refuse. Vous, on ne sait même plus quelle tête vous aurez dans 5 minutes dans le métro. C'est pas vous qu'on refuse. C'est ce que vous avez dit. Or, ce que vous avez dit venait du Christ. C'est le Christ qu'on refuse. Là, vous avez fait tout ce que vous avez pu. Vous avez même employé, si ça durait un certain temps.